L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Michaël de Saint-Chiron, philosophe des religions et écrivain, chercheur et essayiste, spécialiste de la pensée de Lévinas et du dialogue judéo-chrétien, également spécialiste de Malraux et d'Elie Wiesel. Il était lundi soir à la chapelle de la Rencontre de Strasbourg dans le cadre d'un cycle d'art où étaient visibles les œuvres de Francine Mérand. Il était venu présenter sa conférence « L'art après les camps » et signer son dernier ouvrage « Les sept palais célestes » d'Anselme Kiffer. Michaël de Saint-Chiron, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Ravi de vous recevoir à Strasbourg. Un petit peu votre ville de cœur, vous la connaissez bien cette ville?
Oui, je la connais bien depuis 50 ans. J'aime beaucoup Strasbourg.
Alors, comment est née cette réflexion de l'art après les camps de concentration et d'extermination, l'art vecteur de mémoire?
C'est une question qui m'a toujours marqué, peut-être obsédé, enfin en tout cas marqué. Et il se trouve qu'il y a à peu près deux ans et demi, j'ai commencé un travail assez important autour de l'œuvre d'Anselme Kiefer, le grand artiste allemand. D'ailleurs, il y a un musée en Alsace qui avait fait une exposition sur lui. Le musée de Wurtz il y a quelques années, mais lui est complètement allemand. Anselme Kiefer qui a fêté ses 80 ans l'année dernière.
Fils d'officier hein, dans la Wehrmacht.
Fils d'officier de la Wehrmacht et qui s'est fait connaître et huer quand il avait lui-même 16-17 ans en faisant toute une série de photographies et de mise en scène, parce qu'il aime beaucoup la mise en scène de lui faisant le salut hitlérien qui s'appelait Occupation, et dans toute l'Allemagne d'abord, et ensuite en France, en Suisse, en Italie, un peu partout. Et donc je me suis à ce moment-là beaucoup intéressé ou replongé dans cette problématique, parce que c'est une véritable problématique de l'art après la Shoah et après les camps, et ensuite beaucoup de mélomanes et de musiciens, de musicologues plus exactement, plus que de mélomanes, se sont penchés de leur côté à la place de la musique dans les camps et à la place de la musique après les camps et à la musique et la mémoire des camps aussi. Et sans parler évidemment de la littérature, on parlait de Wiesel, nous parlions il y a un instant de Claude Vigée, d'innombrables d'autres auteurs juifs, ou d'ailleurs beaucoup aussi non-juifs, heureusement, qui ont travaillé sur les camps. Donc l'art, en général, la littérature, la musique, la peinture, la sculpture, après les camps, c'est un domaine extrêmement profond, extrêmement fécond. Et il se tient à Paris encore pendant quelques jours, une exposition sur Shlomo Seilinger, qui a fait le grand mémorial de la déportation des Juifs au mémorial de Drancy, et qui vit encore, qui est né en 28 ou en 29, donc calculé, il a 96 ans, dont l'œuvre est tout à fait phénoménale. Donc ce qui fait que je me suis depuis tout le temps intéressé beaucoup, enfin réfléchi, intéressé, et posé des questions sur ce que l'art peut après la Shoah, et ce que l'art peut après les camps. Et on s'aperçoit même qu'à l'intérieur des camps, l'art avait une place pour les artistes, pour les poètes, pour les écrivains, pour les musiciens, une place essentielle. Et on peut évoquer évidemment les célèbres compositeurs comme Victor Haas et beaucoup d'autres. C'est le camp de Theresienstadt, évidemment. Je ne pouvais pas ne pas en nommer ce camp, qui était un camp de transit, mais dans lequel beaucoup de juifs allemands et de juifs hollandais, et de juifs finalement de beaucoup d'autres, tchèques en particulier, très très grands artistes, et de beaucoup de juifs tchèques sont passés par le camp de Theresienstadt, qui se trouve à côté de Prague. Et dans ce camp de transit vers Auschwitz, il y a une quantité de musiciens tchèques notamment, qui ont, aux portes des camps de la mort, ont composé de la musique et fait chanter les enfants qui allaient eux-mêmes mourir quelques semaines ou quelques mois après, et qui ont composé dans l'antichambre de la mort des œuvres entières avant d'être la plupart du temps déportés à Auschwitz en 1944 et tous mourir dans les chambres à gaz. et les corps brûlés dans les fours crématoires. Donc, dans les camps, la musique avait, et la peinture, et le dessin, et la poésie, ont toujours eu une place, je dirais pas prépondérante, mais une place éternelle, finalement.
Est-il besoin de sourcer ces œuvres, ces peintures, cette musique, de leur naissance dans les camps, ou par des compositeurs ou créateurs des camps, ou est-ce qu'on peut l'apprécier, en faire une lecture sans le savoir?
On peut évidemment faire une lecture sans le savoir, mais ça perd peut-être un peu de sa force. C'est comme la question de savoir est-ce qu'on peut écouter un opéra de qui que ce soit, Philippe Glass, parce qu'on a beaucoup parlé de lui ces derniers jours, qui commence une fronde parmi d'autres artistes américains contre Trump et sa politique suicidaire. Mais beaucoup de compositeurs qui ont composé pour le chant, pour la voix, pour l'opéra. Est-ce qu'on comprend et on apprécie autant que ce soit un opéra de Mozart, de Figaro, de Beethoven, de Verdi, et de Puccini et de tant d'autres, et de Wagner, sans comprendre les paroles? Je pense qu'on comprend et qu'on jouit et qu'on communique beaucoup moins à une œuvre lorsqu'on ignore complètement le sens de ce qu'elle dit. Donc ma réponse est, on peut évidemment regarder tout un tas d'artistes qui ont créé après les camps ou d'après les camps, et sans savoir évidemment d'où vient leur œuvre et d'où vient leur obsession, mais évidemment on communique beaucoup moins, on partage beaucoup moins, on participe beaucoup moins du sens de leur travail si on ignore d'où vient ce travail et quelle est l'obsession qui domine l'œuvre et qui domine l'esprit de l'artiste qui a composé toutes ces œuvres. Donc pour moi, pour toute personne qui réfléchit à ces questions, il y a un lien essentiel entre le texte et la mémoire et l'œuvre qui surgit de cette mémoire.
Alors, cette mémoire de personnes qui ont vécu la Shoah, qui ont survécu à la Shoah, on entend, c'est une façon certainement de transcender ce passé. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous porte à mettre en avant particulièrement ces artistes-là? C'est un travail personnel qui vous porte. Alors, vous avez, vous aussi, un itinéraire tout à fait particulier. Vous êtes découvert juif sur le tard.
Absolument,
et vous avez
oui.
fait votre conversion.
Absolument.
Est-ce que c'est en lien avec ça, avec vos propres racines? Qu'est-ce qui vous porte?
Quelle grande question. Je me suis découvert juif, enfin tout en sachant que j'avais une mère juive tout de même, à la fin de l'adolescence, enfin au début de l'âge adulte, quand j'avais à peu près 22-23 ans, autour d'une parole, encore une fois, le rapport à la parole, et d'œuvres qui me venaient de personnalités exceptionnelles. Vous avez cité le nom d'Elie Wiesel, dont nous marquons cette année le 10e anniversaire de la mort, puisque les morts en juillet, exactement 2016. Et j'ai été marqué aussi profondément par l'œuvre de Claude Vigée, et sur le plan philosophique et talmudique profondément par l'œuvre d'Emmanuel Levinas. Donc ce sont des œuvres qui m'habitent toujours et qui me portent. Et ensuite, j'ai ce rapport à l'art qui me vient, lui, ni de Wiesel ni de Levinas, mais qui me vient de mon héritage malraussien, puisque vous avez rappelé tout à l'heure que je m'intéressais beaucoup à Malraux. Enfin, le mot intérêt, d'ailleurs, est trop faible. C'est une passion qui remonte aujourd'hui, puisque j'ai connu Malraux les dernières années de sa vie, donc de 73 à 76. Cette année marque le 50e anniversaire de sa mort. Et c'est lui qui m'a initié à travers ses œuvres, puisque je n'ai pas été au musée avec lui, je l'ai rencontré, mais pas au musée. Donc il m'a initié à travers ses œuvres à connaître l'art, et il m'a initié vraiment à l'art asiatique, à toutes les formes d'art. Et donc l'art est un mode d'expression et un mode d'être qui m'habite depuis plus de 50 ans, comme je vous le disais. Et donc quand on est attiré par l'art et qu'on est amateur d'art et qu'on est critique ou chroniqueur d'art comme je le suis, et qu'on vit dans l'art et qu'on a connu des artistes, on est évidemment intéressé par ces grands thèmes de prédilection et ces obsessions. Et c'est vrai que la Shoah, les camps, est l'une de mes de mes obsessions comme beaucoup de juifs et de non-juifs européens d'aujourd'hui et pas qu'européens. Et donc, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le sens, où est le sens là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un rapport donc direct pour moi depuis toujours entre ce que l'homme peut faire de pire et ce que l'homme peut faire de meilleur. Et évidemment, l'art occupe là une place tout à fait centrale, une place fondamentale. Qu'est-ce que l'homme peut faire de meilleur? Qu'est-ce que l'homme et la femme, l'artiste peut faire contre la barbarie? Et c'est à travers l'art, effectivement, que l'on peut trouver une sorte de réponse, une forme de réponse qui transcende finalement le temps. Malraux disait toujours... Qu'est-ce qui est présent pour vous aujourd'hui? Il disait ça à la télévision. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que Napoléon, est-ce que par exemple les grands hommes de l'histoire, les grands scientifiques sont présents pour vous aujourd'hui à l'instant où je vous parle? Et il disait, pour lui évidemment, non. La seule chose, Copernic n'est pas présent pour nous aujourd'hui, Napoléon, Bismarck n'est pas présent pour nous, ni César, ni Alexandre. Ce qui est présent pour moi aujourd'hui, c'est l'œuvre d'art. Quand je suis devant un tableau, quand j'écoute une musique qui a 3 ou 10 siècles, ou une musique qui a 30 ans, quand je regarde un tableau qui a 80 ans, ou qui a les grottes de Lascaux par exemple, je suis dans une communion avec une œuvre qui me parle et qui est présente pour moi aujourd'hui. Et donc, je réponds à votre question, ce qui est présent pour moi et pour nous, pour tous ceux qui sont sensibles à ces questions, pour nous aujourd'hui, de la mémoire traumatique de l'Europe, mais pas que de l'Europe évidemment, malheureusement, c'est effectivement l'œuvre d'art, c'est à travers l'art que l'on communie avec le passé et que l'on communie aussi avec les grandes tragédies de l'humanité.
Michael de Saint-Chiron, évidemment, ce sont des sujets que vous abordez lors de vos conférences et vous revenez sur l'importance de l'art en tant que vecteur de mémoire. Moi, j'aimerais vous ramener à une question plus contemporaine, même d'actualité. Aujourd'hui, la montée de l'antisémitisme, quel est votre regard sur cette montée de l'antisémitisme aujourd'hui en 2026?
Je dirais que c'est cauchemardesque parce que, comme le disait Wiesel et d'autres, qui nous auraient dit en sortant des camps que 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans après, l'antisémitisme, au lieu de diminuer et de mourir, ne fait finalement qu'augmenter. Et à la suite de l'horrible, de l'abominable 7 octobre en Israël, avec toutes ces victimes et ce pogrom absolument ineffable, au sens le pire du terme évidemment, on pensait... Avant d'arriver avec Gaza, ça c'est encore une autre question. Mais qui aurait imaginé, effectivement, avant le 7 octobre, qu'un tel pogrom était possible? Et qui aurait pu imaginer dans nos pays démocratiques, encore, j'espère, encore pour un bout de temps, qui aurait imaginé qu'après le 7 octobre et qu'après le début de l'offensive de l'armée israélienne à Gaza, avec ses monstruosités inévitables et effroyable, il y aurait eu une telle montée de l'antisémitisme et associé à l'antisionisme en France, mais pas qu'en France, dans le monde entier. Et ça, c'est une prise de conscience tout à fait cauchemardesque. Évidemment, on se dit comment ça se fait? Comment peut-on encore comprendre que 80 ans après la Shoah, il y ait encore dans le monde un tel antisémitisme? Et d'ailleurs, ça c'est Jean Kelevitch qui disait quelle aubaine pour les antisémites. Aujourd'hui, il y a l'antisionisme et on peut effectivement se parer d'antisionisme sans paraître antisémite. Ça, c'est la grande aubaine des antisémites. Mais je ne parle pas là d'antisionisme, je parle vraiment d'antisémitisme. C'est une tâche quasi indélébile qui est au cœur de l'homme, puisque lorsque l'on pense que dans des pays asiatiques ou certains pays, je ne parle pas de l'Afrique, parce qu'en Afrique, il y a tout de même une mouvance musulmane, mais des pays asiatiques ou sud-américains qui sont tout de même assez loin de la mouvance musulmane, qui sont soit chrétiens, soit bouddhistes ou confucianistes, on voit une persistance d'un certain relent antisémite, et on se dit, mais vraiment, c'est inimaginable et incompréhensible.
Et d'autant plus que des gens comme vous aujourd'hui travaillent sur l'histoire, mettent en avant la mémoire.
Travaille sur la mémoire et travaille aussi sur le dialogue entre les différentes cultures et les différentes. Oui, le dialogue interreligieux. Alors, c'est exact que quand on monte vers la lumière avec des êtres, je pense là par exemple au Dalai Lama, enfin parmi d'autres, beaucoup de grands esprits spirituels ou religieux, effectivement, l'antisémitisme est une aberration totale. Mais quand on descend vers les gens qui constituent finalement ces peuples ou ces communautés ou ces religions, on s'aperçoit que l'antisémitisme est une réalité qui n'est pas du tout morte, qui ne demande finalement qu'une allumette pour s'embraser, et c'est ça qui est vraiment tout à fait terrifiant.
On n'aura pas fait évidemment le tour de ce sujet si complexe aujourd'hui, Michael de Saint-Chiron. Pour terminer cette interview, est-ce que vous pouvez juste nous parler des projets ?
Donc dans mes projets d'aujourd'hui, il y a la célébration, enfin la marque de la mémoire d'Elie Wiesel, qui est effectivement aujourd'hui un écrivain qui a beaucoup compté, un homme public qui a beaucoup compté il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on s'aperçoit que son œuvre est très délaissée. Alors est-il au purgatoire ou est-il dans les limbes, ou est-ce que son nom, est-ce que son œuvre qui a été tellement saluée va-t-elle rebondir et ressurgir dans la conscience des lecteurs de la communauté juive, mais pas uniquement, enfin, c'est quelqu'un qui s'adresse à tous. Et évidemment, l'une des grandes occupations de cette année pour moi va être autour du cinquantenaire de Malraux que je citais tout à l'heure, avec un livre que je publie dans quelques semaines et des colloques que je vais organiser. Et à Strasbourg même, d'ailleurs, pour nos auditeurs, je signale qu'au début du mois de mars, à la BNU, une grande exposition organisée et dirigée par Benoît Wiermann, qui est le directeur de la BNU, et par mon frère François de Saint-Chéron, va être consacré à Malraux et au cinéma. Vous savez qu'il a réalisé un seul film dans sa vie, L'Espoir, Sierra de Teruel, au lendemain de la guerre civile espagnole à laquelle il a participé, mais que le cinéma faisait partie intégrante de sa vision de l'art et de ses intérêts pour ce qu'on appelle le 7e art. Donc il y a cette grande exposition à Strasbourg, et je reviendrai moi-même probablement à Strasbourg, très probablement d'ailleurs pour Malraux, que ce soit à la BNU ou que ce soit pour présenter mon livre dans les mois qui viennent. Donc voilà, Strasbourg est toujours un horizon qui m'est cher.
Votre livre, donc celui qui aujourd'hui est disponible, c'est Les Sept Palais Célestes d'Anselme Kiefer, La mémoire du monde. On n'a pas eu le temps d'en parler. C'est aux éditions Actes Sud.
Comme mon Malraux d'ailleurs, qui est publié, dont je dis le titre, qui s'appelle Malraux au miroir de l'art et du sacré, et qui sera publié donc le 2 mars prochain chez Actes Sud.
Michael de Saint-Chiron, merci infiniment d'être passé nous voir ici dans les studios de Radio Judaïque à Strasbourg. Vous êtes évidemment le bienvenu pour vos prochaines venues à Strasbourg.
Un grand merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.